Donc moi, je voulais commencer par, d'abord, je remercie Cathy et Chris pour leur invitation. Je m'excuse pour mon retard qui est dû à des raisons absolument indépendantes de ma volonté. Et je voudrais commencer par l'intitulé général du séminaire, du cycle de conférences. Je ne sais pas si vous me direz si c'est redondant, si c'est des choses qui ont été déjà évoquées précédemment, qui est « Développement durable et acceptabilité sociale ». Or, il y a un film de Nanni Moretti que j'aime beaucoup, peut-être vous connaissez, « Palombella Rossa », qui est sorti en 1989, dans lequel on parlait à la fois de water polo et de la fin catastrophique du Parti communiste en Italie. Et le personnage, qui est toujours un peu Nanni Moretti, en répondant à un journaliste, lui disait, très en colère, lui disait « les mots sont importants ». Et moi, j'ai l'impression ces derniers temps de ne pas cesser de dire que les mots sont importants et je trouve que développement durable et acceptabilité sociale sont deux expressions qui me posent un problème majeur. Alors, comme par ailleurs me pose un problème majeur toute cette question du soin qui véhicule, à mon avis, des bons sens et du bon sens, des bons sentiments, en oubliant que les personnes qui sont chargées du soin sont toujours des femmes, ou des éboueurs, ou des infirmières, ou des assistantes de vie, donc des subalternes d'une manière ou de l'autre. Je me méfie absolument de cette importation, de cette philosophie du care dans la philosophie française, personnellement. Donc je répare le développement durable, qui est une expression qui est pour moi toujours posé problème, parce qu'elle sonne trop bien, elle a trop vite été adoptée par des pouvoirs, des institutions, des entreprises, dont l'engagement écologique est tout au moins problématique, pour être vrai, si j'ose dire. Et la critique de cette expression a été faite brillamment, beaucoup plus brillamment que je ne pourrais le faire, par l'économiste Serge Latouche, notamment dans un petit livre, « Survivre au développement », qui a été publié chez Mille et une Nuits en 2004, et qui était une réponse à une commande de l'UNESCO, qui lui avait été adressée pour élaborer une synthèse critique autour de la notion de développement, notamment en économie, hein, parce que Latouche, en plus d'être le grand théoricien de la croissance, est un économiste, et pour ouvrir de nouvelles pistes de réflexion et d'action pour la construction d'un après-développement. Donc c'est un rapport que Latouche rend à l'UNESCO dans lequel il fait l'historique de cette notion de développement. Donc, il en profite pour critiquer de façon très argumentée. Je vous invite à lire ce petit livre parce que ça remet la notion dans une perspective historique que parfois on ignore, au moins moi j'ignorais avant de le lire, les notions de progrès et de développement, leurs conséquences historiques sur les modes de production, les modes de vie, l'économie et l'écologie, la façon dont ils ont colonisé l'imaginaire, c'est une expression qui revient systématiquement chez Latouche. Et donc, en empêchant toute réflexion sur un modèle de société alternatif. Un modèle de société alternatif que, comme vous le savez peut-être, Latouche trouve de son côté dans l'idée de décroissance. Je cite trois lignes de ce texte. « Remettre radicalement en question le concept de développement, c'est faire de la subversion cognitive. Et c'est ce qui est le préalable et la condition de tout vrai changement politique, social et culturel. » Donc, après avoir présenté un historique de l'hégémonie de la notion de développement depuis 1949 et de sa substitution dans les années 1980 par le terme de mondialisation, Latouche en arrive au nouvel avatar de la vieille notion de développement, qui est un développement avec un qualificatif, hein, qui peut être humain, durable, soutenable, etc. En affirmant que la pathologie du développementisme doit être combattue ses formes, donc même sous sa forme beaucoup plus acceptable apparemment qui est celle du développement durable. Thierry disait dans la présentation de cette matinée, rappelait que le développement durable est un oxymore, hein, ou une antinomie, et c'est ce que Latouche dit de façon très affirmée. Il le compare à guerre propre, mondialisation, un visage humain, économie solidaire, hein, autant d'oxymores qu'on utilise tous les jours sans même pas s'en rendre compte. C'est une notion qui est apparue à la conférence de Rio de 1992, hein, qui est censée indiquer un développement qui serait économiquement efficace, écologiquement soutenable, socialement équitable, démocratiquement fondé, géopolitiquement acceptable, culturellement diversifié. Donc quelque chose qui n'existe pas, surtout quand on raisonne en termes de développement. On évite donc, quand on utilise tous, on le fait tous tous les jours sans même pas s'en apercevoir, on évite soigneusement d'interroger L'incompatibilité fondamentale qui existe entre cette notion de développement, qui relève de l'idée de l'idéologie de la croissance économique et donc qui est virtuellement infinie, je vous rappelle qu'encore aujourd'hui, dans l'effondrement total de l'économie dans laquelle on a vécu pendant un certain temps, nos hommes politiques, les journalistes et les médias nous répètent tous les jours qu'il faut réintroduire de la croissance, donc visiblement ils n'ont rien compris à ce qui se passe. Et développement et par croissance sont des mouvements qui s'inscrivent d'emblée dans un devenir infini, virtuellement infini. Alors que la durabilité suppose de prendre en compte le caractère limité, réduit des ressources planétaires. Donc développement durable, c'est un oxymore et c'est, je pense, une expression à éviter. La même méfiance surgit à moi à la lecture de l'expression acceptabilité sociale. Qui semble exprimer une sorte de vocation pédagogique. On ne sait pas de la part de qui. C'est comme les politiciens toujours qui nous disent « cette réforme a suscité des réactions de la part du peuple, mais on va faire de la pédagogie, on va leur expliquer ». Donc là, on est dans une crise écologique, le peuple n'a pas très bien compris, mais nous allons faire de la pédagogie afin que ce soit accepté au niveau social. Nous qui hein? Nous, ce serait les hommes politiques, les architectes, les urbanistes, les économistes, les écologistes plus éclairés que les autres, ou pire, les artistes. Hein. Donc cette fonction d'acceptabilité sociale me semble d'autant plus inquiétante quand on veut l'attribuer à l'art ou aux artistes, hein, à qui les pouvoirs publics confèrent déjà la charge de diffuser la bonne nouvelle, comme ils leur confient celle de créer de l'art dans la ville ou de recréer des liens sociaux. Autant d'expressions, encore une fois, dont je pense qu'il faut se méfier. Les mots sont importants, encore une fois. Et donc, d'ailleurs, les responsables des associations qui interviennent dans ce genre, associations artistiques qui interviennent dans ce genre de manifestations, utilisent déjà le même jargon issu du marketing et de la communication que je trouve particulièrement insupportable quand on parle d'art. Hein. Il m'est arrivé d'être confrontée à une présentation d'une jeune femme, par ailleurs très brillante, qui gère comme ça un réservoir d'intermittents du spectacle afin qu'ils soient employés par les municipalités dans des interventions artistiques dans l'espace urbain. Colorier le carrefour en rose, faire danser une danseuse sur un place, etc. Elle utilisait un jargon entrepreneurial qui ne la choquait pas du tout en s'adressant à des étudiants en école d'art comme des réservoirs d'actions artistiques. Ça ne lui posait strictement aucun problème. Alors, une fois qu'on a mis de côté, je pense, développement durable, acceptabilité sociale, les questions pour lesquelles on a introduit ces termes restent. Hein, c'est-à-dire le fait qu'on est confronté, on le répète tous les jours, à une énorme, radicale crise écologique et qu'il faut qu'à un moment ou à un autre, on y trouve des solutions qui ne soient pas des normes du style du Grenelle de l'environnement. Hein, c'est-à-dire des réponses purement technocratiques qui n'ont aucun impact réel sur les équilibres planétaires. Alors, pour ma part, j'ai renoncé depuis longtemps et même depuis toujours à me servir, à raisonner en termes de développement durable et je raisonne plutôt en termes, j'essaie de raisonner plutôt en termes d'écosophie, terme qui a été évoqué tout à l'heure à propos de Félix Guattari dans l'intervention précédente, non pas dans l'acception d'Arnonès que je connais peu, que je connais mal et qui ne me passionne pas à outre mesure, mais dans celle de Félix Guattari, qu'il a élaborée en 1989, comme ça a été dit auparavant, dans les trois écologies, qui est un ouvrage qui s'inspire plutôt de la lecture de Batson et des deux tomes de vers une écologie de l'esprit que de l'écosophie d'Arnonès. Alors, comme le souligne à juste titre Stéphane Nardo, dans sa préface au texte de Guattari qu'il a réuni récemment dans le volume « Qu'est-ce que l'écosophie ?», que je vous invite à lire, c'est un gros volume, mais pour la première fois, on trouve réunis en 700-800 pages des textes sur l'écosophie qui étaient introuvables, dispersés à droite à gauche. Donc on pouvait croire que toute la réflexion de Guattari sur l'écosophie se réduisait à quelques pages des trois écologies. En réalité, non, les trois écologies datent de 1989, Guattari est mort en 1992, et entre-temps, il a déployé une énergie incroyable dans des revues, des rencontres, des conférences, etc., pour commencer à affirmer cette notion que plusieurs actuellement reprennent. Donc, comme le souligne Stéphane Dano, l'écosophie telle que Guattari la fabrique, le terme de fabriquer est très important. Il ne s'agit pas d'une théorie qui serait surplombante, hein, qu'il s'agirait d'accepter socialement, Mais il s'agit d'un bricolage qu'il fait à partir de ses lectures, de ses rencontres, de ses engagements militants, dont à l'époque celui dans le parti écologiste. Donc, l'écosophie telle que Guattari-Lattabec n'est pas réductible à l'écologie telle que nous la présente habituellement. Écosophie, dit Nadeau, est plus proche de philosophie que d'écologie, dans la mesure où les oikos, les environnements desquels il faut se soucier, donc pour une fois, moi aussi, j'introduis le vocabulaire du souci et du soin, sont au moins trois. C'est pourquoi Guattari parle d'écologie mentale, sociale et environnementale. Mais en réalité, en lisant les pages de Qu'est-ce que l'écosophie, on se rend compte que les écologies sont beaucoup plus nombreuses, parce qu'il s'agit de prendre en compte des environnements économiques, des environnements médiatiques, des environnements technologiques, des environnements urbains, tous impliqués dans un questionnement autour de la préservation des équilibres naturels et psychiques, qui est à la fois une question individuelle et collective, et en tout cas, dans la perspective de l'écosophie, qui est une question nécessairement globale. On ne peut pas réintroduire une espèce animale dans un certain écosystème sans s'inquiéter de la structure économique dans laquelle tout cela, ces actions sont introduites. J'ouvre encore une petite parenthèse polémique, mais je suis très en colère en ce moment. C'est-à-dire, je trouve qu'il y a une magnifique tradition d'écologie politique et philosophique, entre guillemets, à la française, hein, qui va d'Edgar Morin à Gortz, Illich, Bruno Latour, Descola, etc., et les départements de philosophie, les rares qui ont introduit une réflexion écologique, l'ont introduite sous la forme d'éthique environnementale, en se référant pratiquement exclusivement à des écrivains, des auteurs anglo-saxons, que peu lisent, mais qui se paraissent un peu plus acceptables, parce que moins engagés politiquement, parce que limités à des questions de langage, de droit, etc. etc. Donc il faudrait interroger politiquement la raison pour laquelle la question écologique est restée aux portes des universités pendant très longtemps, elle y rentre par cette voie-là d'éthique environnementale et pas par une voie d'écologie politique ou philosophique. C'est une question importante. Alors, dans ce projet de pensée d'action à la fois, qui est l'écosophie de Guattari, il joue un rôle essentiel, ce qu'il appelle un nouveau paradigme esthétique. Alors, esthétique, ça, on l'aura compris déjà en suivant l'intervention précédente, ne signifie pas ici le domaine spécifique réservé à quelques élus de la pratique artistique. Mais plus globalement, introduit le sens étymologique d'aesthésis, sensibilité et science du sensible à l'origine de la discipline philosophique au XVIIIe siècle. Dans un article qu'il a publié en 1992, peu avant sa mort, dans la revue Terminale, c'est un article qui s'intitule « Vers une écosophie » qui a été repris dans le gros ouvrage édité par Stéphane Nadeau. Guattari écrit que l'art a toujours été un élément essentiel de la charpente de toute société, mais que sa transformation progressive en un domaine séparé et spécifique, réservé à des corporations spécialisées, pensons aujourd'hui au triste devenir des corporations spécialisées du monde de l'art contemporain, en a fait une sorte de, dit-il, supplément d'âme, une fragile superstructure dont on annonce régulièrement la mort. Alors que, depuis les grottes de Lascaux, l'art a été toujours un enjeu vital dans la constitution des subjectivités individuelles et collectives. Donc il y a eu une perte de sens, si on veut, de l'art à partir du moment où elle est devenue, disons, entre la fin du 18e et le 18e, avec des prémices à la Renaissance, un domaine spécifique de l'existence humaine considérée comme telle. Donc l'intérêt de l'art, selon Guattari, consiste dans sa capacité de produire ce qu'il appelle un décadrage. Une rupture du sens sérialisé et normalisé, du sens homologué, dirait Pasolini, qui permet à ceux qui ont accès de se réinventer, de se résingulariser. Je cite un petit passage de ce texte, « L'événement de sa rencontre, donc de la rencontre de l'art, peut dater irréversiblement le cours d'une existence et générer des champs de possibles loin des équilibres de la quotidienneté. Souhaiter un changement de paradigme esthétique auquel l'art peut donc contribuer en premier lieu, même si ce n'est pas l'art tout seul qui pourrait le déterminer, signifie reconnaître que nos sociétés, désormais dos au mur, écrivait Guattari il y a plus de 20 ans, donc je ne sais pas dans quelle position elle se trouve aujourd'hui, devront, pour survivre, développer la recherche, l'innovation, la création, des dimensions qui, dans tous les champs et les territoires de l'existence, relèvent du domaine esthétique. Le paradigme esthétique ne relève donc pas exclusivement de la création artistique, même si une création artistique renouvelée peut contribuer de façon déterminante à son changement et à l'émergence d'une nouvelle sensibilité dans des domaines aussi divers que la science, l'économie, la vie urbaine, l'école, l'institution psychiatrique dans laquelle et sur laquelle Guattariol a longtemps travaillé, les formes de sociabilité, donc tous les niveaux de l'écologie, parmi lesquels bien évidemment le niveau qui concerne la préservation et la réinvention des équilibres naturels, donc ce qu'il appelait écologie environnementale. En utilisant une très belle expression à mon avis, Guattari affirme ainsi que l'art est le domaine qui résiste. Quand tout fout le camp, on peut espérer que quelque chose résiste dans le domaine de l'art. C'est peut-être un peu utopique, mais c'est beau comme idée, je trouve. Je cite encore un petit passage de ce texte. Dans le laminage des subjectivités et des environnements produits par l'univers du capitalisme avancé, l'artiste est une sorte de chevalier errant, dit-il, qui œuvre en direction d'une hétérogénèse. Alors ici, hétérogénèse, la production du divers, s'oppose à l'homogénèse produite par le capitalisme avancé. Donc, contre la réduction à l'argent comme équivalent universel, l'art peut remettre à l'ordre du jour, au moins on peut l'espérer, le divers et le singulier. Et l'art, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un domaine très vaste, de plus en plus vaste, qui peut inclure la peinture, la couleur, les sons, donc tous ces outils traditionnels, mais aussi les concepts, mais aussi les environnements d'ordre spatial, urbain ou naturel. Donc sa force consiste maintenant à pouvoir changer de forme, de matériaux, de mode d'expression. Donc c'est dans ce contexte de changement, je pense, qu'on voit de plus en plus souvent des artistes qui choisissent de se confronter à des questions environnementales. Donc on assiste à l'émergence, qui a été évoquée déjà précédemment, dans tous les arts, d'une nouvelle imagination environnementale qui modifie les formes artistiques tout en infléchissant sensiblement notre relation à la nature. Dans les arts plastiques, la nature devient ainsi un enjeu de sculpture, qui peut être monumentale ou éphémère, ou de pratique évolutive, installation, environnement, comme on l'a vu tout à l'heure. Dans la musique aussi, à travers la notion de paysage sonore, on commence à réfléchir de plus en plus sur les liens entre le son et le territoire. Et bien sûr, en architecture, l'exigence de durabilité, avec beaucoup de guillemets, nous oblige à repenser intégralement les liens entre le bâti et la nature environnante. Donc, il est difficile dans ces conditions de continuer à ignorer les problèmes environnementaux dus à l'impact de l'activité humaine. Et il est difficile aussi de continuer à considérer qu'il y aurait un seul rapport de l'être humain à la nature. Donc, il n'y a pas un seul type de rapport de l'être humain à la nature. Il n'y a pas, par exemple, un seul type de paysage auquel est confronté l'individu. Il n'y a pas une seule culture qui servirait de prisme par lequel l'ensemble de la communauté humaine percevrait ce qui l'entoure. L'environnement révèle ainsi progressivement toute sa complexité qui s'avère pour l'artiste un matériau privilégié. On a vu tout à l'heure que l'art reprise avec la question environnementale dans ses manifestations les plus intéressantes, donc celles qui ne se soucient d'aucune acceptabilité, mais qui provoque, qui interroge, qui questionne le spectateur ou le citoyen pour essayer d'ébranler ses certitudes et ses manières habituelles de percevoir le monde, ce qui devrait être à mes yeux la tâche d'un art réellement contemporain, et à son tour en prise avec des questions environnementales, au pluriel je crois, parce qu'il s'agit de plusieurs sortes d'environnements. Rapport avec des environnements naturels en péril ou dont on souhaite juste rappeler la beauté oubliée parfois, questionnement sur un environnement économique écocide et ses conséquences sur la vie psychique et sociale, traverser des espaces urbains, il y a un très bel art de la dérive, de la marche urbaine, etc., que je trouve qui donne des choses de plus en plus intéressantes. Donc la reprise avec la question environnementale, on l'a vu tout à l'heure, peut s'occuper de déchets, des boueurs, etc., et donc loin d'être un art qui célèbre la forêt, les cours d'eau et les petits oiseaux. Car il peut au contraire nous montrer des montagnes, des déchets qui sont un environnement qui nous est devenu malheureusement souvent plus familier que celui d'une nature préservée que l'on part chercher dans des destinations lointaines de plus en plus rares ou dans des campagnes de plus en plus polluées et urbanisées qui n'ont plus rien à voir avec cette image d'Épinal des espaces verts, si j'ose dire. Donc, à mon tour, je vais essayer une tentative de généalogie hein, de cet art. Bien sûr, on a vu dans l'intervention précédente que c'est quelque chose qui commence à s'affirmer dans les années 60-70 sous des formes extrêmement diverses et variées. Donc, on peut choisir sa généalogie. Et moi, je voudrais rappeler l'importance des artistes qui relevaient du mouvement de l'arte povera, qui s'est affirmé en Italie essentiellement entre 1966 et 1969. Après, fort heureusement, les artistes qui en faisaient partie ont continué leur production. Arte povera qui a fonctionné comme une machine de guerre esthétique, en opposition à l'industrie culturelle et à la société de consommation, donc aussi à une vision purement consommatrice des ressources naturelles. Alors, on peut citer par exemple quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Giovanni Anselmo, qui a réalisé des sculptures à partir des matériaux naturels comme la pierre, le bois, le fer, mais aussi de matière végétale. Alors, la structure que vous voyez ici est un objet extrêmement étrange. Elle est sans titre, mais le sous-titre est structure qui mange, hein. Donc, vous avez une sorte de colonne qui évoque déjà un matériau travaillé par l'art d'une certaine manière, avec l'étuve qui apparemment est digérée et il y a des restes qui tombent au pied de la colonne, hein. Donc, je trouve cette sculpture, cette image extrêmement troublante. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils font pour exposer la statue parce que la laitue doit être changée régulièrement. Je ne me suis pas renseignée, je n'ai pas eu le temps, mais ce serait intéressant de voir hein, si elle survit qu'à l'état d'image ou si elle est gardée dans un musée avec un gardien qui lui donne à manger tous les jours. Hein, ça serait intéressant. Mais. Surtout, on peut évoquer aussi une personnalité dont l'œuvre qui a commencé dans les années 60 se poursuit avec beaucoup de succès, je trouve, jusqu'à nos jours, qui est Giuseppe Pennone. Donc, je vous montre ici une œuvre qui a plusieurs versions. Je voudrais vous montrer ici comment. Voilà. Une œuvre qui a plusieurs versions. Là, on a un dessin. Tout à l'heure, je vais vous montrer une sculpture qui s'intitule Il poursuivra sa croissance sauf un seul point. Donc, vous avez la croissance d'un arbre qui est interrompue par l'intervention technique, on pourrait dire, de la main de l'artiste. Là, vous avez une autre version dans laquelle c'est une main en bronze, je crois, qui bloque, qui arrête la croissance de l'arbre. Donc, dans un livre d'entretien qu'il a publié en 2012 et qui porte un titre magnifique, qui s'appelle Le regard tactile, je vous invite à le lire aussi. Pennone s'est exprimé sur la nature complexe de son travail, qui interroge la façon dont la nature est modifiée par le travail humain, par exemple dans la variété des paysages. Il dit avoir été extrêmement inspiré dans sa réflexion par la variété des paysages italiens. En France, on a aussi pour l'instant une grande variété de paysages. Mais aussi vouloir interroger le moment où le travail de l'homme devient en quelque sorte nature, hein, devient presque un équivalent de la nature, des processus naturels. Le monde végétal et minéral est ainsi anthropomorphisé, dit-il, tandis que le corps de l'artiste et ses interventions finissent par se fondre dans la nature, dans une mise en relation incessante entre le dedans et le dehors. Donc les échanges entre le corps et le travail de l'artiste et leur inscription dans le territoire sont au centre également des artistes qui relèvent du mouvement du land art, hein, qui était évoqué tout à l'heure. Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le travail de Richard Long, dont je vous montre ici la célèbre Line Made by Walking, dans laquelle l'artiste a réalisé une ligne droite sur le sol simplement en foulant l'herbe avec ses pas. Donc de ses interventions, il ne restera plus que des images, hein, parce que après son passage, le paysage n'a pas été modifié de façon durable. Et d'ailleurs, Long refuse, dit-il, d'être confondu avec les artistes américains que l'on regroupe sous ce nom de land art, parce qu'il considère qu'il défigure la nature et qu'il transforme outrageusement le paysage. Donc, il faut être beaucoup plus écologique que le land art et ne se limiter qu'à des interventions qui sont éphémères. Donc, son travail ne prétend pas laisser des traces dans le paysage autres que photographiques, et vise à instituer avant tout des nouveaux rapports entre le corps de l'artiste, ou comme ici la simple trace de son passage, et le territoire qu'il traverse ou qu'il modifie pour un temps. Alors, je voudrais rappeler que la question de l'esthétique environnementale a été introduite dans le débat français, réintroduite, récemment remise au centre de l'attention, en partie aussi par les travaux de la géographe et plasticienne Nathalie Blanc, dont j'évoque trois titres parmi d'autres, qui sont « Vers une esthétique environnementale », paru en 2008, « Écoplastie, art et environnement » et les nouvelles de 2010 et « Les nouvelles esthétiques environnementales », paru en 2012. Alors, dans l'ouvrage Écoplastie, donc, qui est formé d'une série d'entretiens avec des artistes qui, d'après Nathalie Blanc, relèvent de cette démarche d'esthétique environnementale, et c'est un ouvrage qu'elle a écrit en collaboration avec une historienne de l'art, donc c'est très intéressant, en collaboration entre une géographe et spécialiste de l'environnement, notamment urbain, et une historienne de l'art. Les deux auteurs tracent dans l'introduction un panorama très utile, je trouve, des pratiques et pensées de l'art et de l'écologie et de la variété des interventions artistiques dans ce domaine. Il faut remonter la reconnaissance internationale d'un mouvement d'art environnemental ou écologique à l'exposition Écologie fragile organisée en 1992 à New York.
Donc, je voulais juste te dire une chose, c'est que donc tu es arrivé, parce que ça a été évoqué ça tout à l'heure, exactement,
Ça a été évoqué?
cette exposition.
Très
Non,
bien.
mais c'est très bien de le reprendre. Mais je
Non,
voulais
non,
dire.
mais ça a été déjà dit,
Oui, mais parce
on
que.
peut...
Non, non, mais c'est pas du tout qu'il ne faut pas le faire, mais je veux dire que, comme tu es arrivé, je pense, en cours de la conférence,
Ouais.
Line by, Made by Walking, ça avait été évoqué, et aussi le fait que ce n'était pas du land art, et aussi le fait, fragile
Donc, je suis
exposition.
arrivée trop
Mais
tard.
ce qui est très bien, au contraire, parce que ça confirme que on peut des fois être d'accord.
Donc, je continue, je saute cette référence. Et par contre, je voulais. Vous avez parlé aussi du travail de Nathalie Blanche dans
Non,
l'écoplastie.
pas du tout.
Ce que je voudrais dire, c'est que je trouve intéressant dans cette introduction, malgré, mis à part cette référence à l'expo qu'on partage, donc, elle remarque que les acteurs de cette tendance conçoivent des grands espoirs d'un renouveau profond des questions environnementales par l'art, mais que d'autre part, ils expriment très souvent des craintes d'une instrumentalisation de leur travail par le militantisme politique ou l'activisme moral. L'éthique environnementale, hein, dont j'évoquais tout à l'heure, dont je me méfie profondément. Donc, elles soulignent le fait que ces artistes, ce sont les artistes qui ne font pas que du décoratif, qui ont une vraie démarche engagée, sont confrontés à une grave difficulté, hein, parce que d'une part, ils risquent de devenir, encore une fois, les véhicules de l'acceptabilité sociale, et donc ce n'est pas le rôle qui leur convient. D'autre part, ils risquent d'être limités à cantonner à une fonction de militantisme politique, ou sinon être réintroduits dans cette tendance dont on parlait tout à l'heure, de l'éthique environnementale, avec tous les bons sentiments de tout genre qu'elle véhicule. Donc, garder une spécificité, il s'agit bien sûr de sortir de l'idée de l'art comme domaine séparé, mais garder une spécificité esthétique de leur démarche pour ces artistes est toujours un enjeu difficile. Et chacun essaie de négocier comme il peut avec cette nécessité. Alors, plusieurs démarches d'esthétique environnementale choisissent de s'inscrire dans une vision élargie de l'écologie et dans l'héritage du pragmatisme américain qui prête plus d'attention aux relations aux dynamiques d'ensemble qu'aux objets, aux œuvres d'art et aux organismes isolés, qui choisit de privilégier les processus inattendus qui émergent dans le cours de l'action plutôt que l'application d'un quelconque manifeste théorique ou esthétique concernant l'écologie. En intégrant des pratiques non expertes, hein, ça on l'a vu tout à l'heure, non réservées à des spécialistes de l'art, les artistes parviennent parfois à s'engager autrement, à inventer des solutions locales à des problèmes collectifs par des démarches de bricolage créatif, hein, très différentes des points de vue des techniciens de l'environnement ou de l'urbanisme, on l'a dit tout à l'heure. Toute interprétation de ces actions en termes de simple efficacité. Alors, on pose souvent la question à quoi ça sert? Est-ce que ça sauve les pandas? Est-ce que ça protège l'environnement de la pollution? Et insuffisante, bien évidemment, parce qu'elle ignore, dit Nathalie Blanc avec une expression que j'aime beaucoup, la question des langages de l'art comme possible lecture, invention de monde à partage. Hein. Tout à l'heure, c'était ce qui résiste, et maintenant, c'est un véhicule de lecture, invention de monde à partage. La question de ce partage étant aussi une énorme question à creuser, mais dans un séminaire de quelques années, je crois. Et donc, j'ignore aussi la contribution esthétique à la redéfinition en termes de sensibilité et d'imaginaire, comme l'indiquait Félix Guattari, de la vision de la nature et des échanges entre nature et culture. Je cite ici, encore une fois, trois lignes. L'art environnemental s'inscrirait donc dans une dynamique de révision très profonde de nos visions du monde, car l'environnement, telle est du moins l'hypothèse mise dans ces pages à l'épreuve des œuvres et des propos d'artistes, serait un art, l'art du milieu. Hein. Encore une question extrêmement passionnante qui est celle du milieu, de l'inscription de l'art dans les milieux et dans la pensée du milieu. Alors, on a dit et répété que ces typologies d'intervention sont extrêmement vastes. Et pour en présenter juste en conclusion quelques-unes, je vais m'appuyer cette fois-ci sur le catalogue de l'exposition Radical Nature de 2009 à Londres. Je ne sais pas si elle a été évoquée aussi.
Non.
Non, très bien. Et qui retrace l'émergence d'un art environnemental à partir des précurseurs des années 60-70 jusqu'à aux artistes en œuvre en 2009, hein, quand l'expo a eu lieu. Alors, je crois qu'il y a eu beaucoup d'expos de ce genre. Moi, je trouve que l'élément intéressant de cette tentative de mise en perspective historique est qu'il ne sépare pas l'art de l'architecture. Pour ma part, j'ajouterai aussi le design. Hein. C'est-à-dire que si on est dans une vision globale, il faut aussi sortir de divisions un peu artificielles entre ce qui relèverait de l'art, ce qui relèverait de l'architecture et ce qui relèverait du design, que, comme vous le savez, n'a plus rien à faire avec la production de tabourets en plastique. Oui. Le design dans les magazines populaires, c'est toujours ça, mais le design est engagé dans une révision profonde de ses objectifs, de ce que c'est que la production, de ce que c'est la consommation, de ce que c'est que l'écologie, etc. Et donc le catalogue ne sépare pas, il n'y a pas de design, mais ne sépare pas l'art de l'architecture. Parce que s'il s'agit de repenser la complexité des interactions entre l'homme et ses environnements, indissociablement naturels et artificiels, la dimension esthétique et écologique des environnements bâtis et des objets construits ne devrait pas être séparée d'une réflexion sur des expressions considérées comme plus spécifiquement artistiques. Par exemple, dans les années 1960, une grande partie de l'architecture expérimentale, pensons au radical, pensons au mouvement italien comme Superstudio, ou à leur prolongement dans le design avec une expérience pédagogique et de recherche étrange comme Global Tools, par exemple, a essayé de mettre en question les fondements même de la discipline, pour la repenser comme une médiation technologique et culturelle entre les individus et le monde, monde considéré dans sa dimension naturelle, culturelle, bâtie, sociale et psychique à la fois, encore une fois, pour revenir dans une dimension globale. Donc, depuis leur début, toutes ces pratiques variées, on comprend comment la conviction que l'homme fait partie intégrante de la nature, conçue comme un écosystème complexe, y compris à travers les effets catastrophiques de son activité sur les équilibres planétaires et les ressources naturelles. Alors, parmi les exemples de précurseurs qui sont réunis dans ce catalogue, il y a le rappel d'une action désormais très célèbre de Beuys à la...
Ça aussi, on l'a vu.
Voilà. Il ne faut pas arriver en retard. Alors, dans l'actualité plus récente, par contre, il y a une artiste, alors, comme Lara Al-Marsegi, qui, vous l'avez vu aussi, fait un travail que je trouve assez intéressant, qui explore les relations entre l'architecture, l'urbanisme et la nature, notamment en travaillant sur des lieux abandonnés ou des sites destinés à la démolition. Alors là, par exemple, c'est tout un répertoire, un catalogue des terrains vagues les plus intéressants de Sao Paulo. Sachant qu'après coup, elle revenait sur les terrains de ses premières interventions et se rendait compte que ces terrains vagues disparaissaient à vitesse grand V, bien sûr, parce qu'ils devenaient l'objet de spéculations immobilières innommables. Et donc, il y a tout un travail qu'elle a essayé de faire avec les habitants de certaines villes, dont notamment Sao Paulo, pour essayer de les préserver en tant que tels, en tant que interstices ou espaces libres. Hein. Alors, récemment, je l'ai sollicité pour un livre sur la ville, et elle m'a envoyé un document très étrange que j'ai beaucoup aimé, qui est s'intitule Matériaux de construction de Dijon, parce que moi je travaille à l'École nationale supérieure d'art de Dijon, et c'est une liste de tous les matériaux qui constituent la ville de Dijon. Tonnes de pierre, tonnes de terre, tonnes de briques, etc. Je ne sais pas en quoi. C'est, donc à la fin, on a la quantité de tonnes de matière que sont censées constituer la ville de Dijon. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est scientifique, mais en tout cas, c'est extrêmement drôle. Hein. Et ça fait réfléchir, parce que ça traduit en tonnes hein, la quantité de matériaux, de substances, de choses qui font la matérialité d'une ville. Ou encore l'artiste écossaise Anya Galassio. Ici, je vous présente Red and Green. Ça date de 1992, mais c'est une installation qui a été représentée un nombre incalculable de fois au musée, à l'extérieur du musée. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez un parterre de roses rouges. Donc c'est très beau, c'est très joli, ça fait très poétique. Mais en dessous, il y a les tiges avec les épines. Hein. Donc, c'est une manière aussi de faire réfléchir sur le fait que la nature est quelque chose de beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile, parfois beaucoup plus dangereux qu'on a l'habitude de le penser. Donc, on pourrait dire, à mes yeux, que l'intérêt de l'art environnemental, dans certaines de ces manifestations, consiste dans le projet de contribuer à concevoir, comme disait Guattari, un nouveau paradigme esthétique, dans lequel la nature n'est jamais séparée de la culture. Il n'y a aucun environnement qui serait entièrement préservé de l'intervention humaine et les équilibres de la planète interagissent avec les activités humaines et vice-versa.